Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez des chroniques inconnues sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Pamela Stéphanie, prestatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de Jean Lursa. Nous sommes en direct sur 93.9 FM et nous allons parler l'engagement associatif et personnel. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons l'interview du Secours Populaire. Nous accueillerons ensuite deux chroniques, l'une sur des portraits des femmes militantes et des catastrophes en Indonésie. Puis nous accueillerons deux chroniques, un sur un joueur de foot et une sur le Green Challenge. Nous finirons cette émission avec une interview pour le burn-out. C'est parti pour des chroniques inconnues.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Et là, on est allé à la rencontre des bénévoles du Secours Populaire. On écoute l'interview.
Est-ce que vous pouviez nous dire une journée que vous passiez au Secours Populaire?
Oui, alors moi je viens faire le vestiaire des SDF, c'est-à-dire que le Secours Populaire s'occupe de faire prendre aux gens de la rue des douches. Donc on leur fournit tout ce qui est produits d'hygiène, vêtements, le petit déjeuner.
Quelles sont vos autres activités proposées par le comité?
C'est des familles qui rencontrent des problèmes de logement, des problèmes de financiers. La CAF, par exemple, vous avez entendu parler, qui d'un seul coup arrête le versement. Les familles ne savent pas ni pourquoi ni pour comment. Leur donner tous les éléments qui leur permettent, elles, d'aller trouver, et les assistantes sociales, d'aller dans les maisons de quartier, d'aller à la CAF, enfin, de voir tous les acteurs qu'il y a sur cette ville qui permettent de mettre leur dossier à jour. Si elles n'y arrivent pas, elles reviennent nous voir et on continue à aller le voir. Mais c'est important, ça veut dire que nous avons des partenariats avec le bailleur, avec la mairie, avec tout ça. Ça aide une famille qui est quelquefois un peu dépourvue par rapport à l'administration qui ne leur donne pas beaucoup de possibilités de s'y retrouver. Voilà.
Vous nous avez parlé de vos actions à Saint-Denis. Pouvez-vous nous parler des actions au Secours Populaire à l'international?
Pour chaque pays, sur place, nous avons forcément des associations avec lesquelles nous travaillons à longueur d'année avec eux. Parce que ce n'est pas juste quand il y a une catastrophe qu'on va vers eux. Hein. On y travaille tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est très, très important. Haïti, ben voilà, il y a un problème au Maroc, il y a un problème, il y a l'Ukraine, et on ne réagit pas pareil suivant le pays. Par exemple, là, il y a eu le Maroc, hein, il y a eu des problèmes au Maroc. Donc, immédiatement, on a des mails, on a des informations, et on attend qu'on nous dise qu'effectivement, au Maroc, qu'est-ce que nous demandent les populations impactées par le problème qu'il y a au Maroc. Là, eux, ce qu'ils veulent, c'est ça ou ça ou ça. Voilà.
Quel message voudrez-vous délivrer à la jeunesse?
Le message que je voudrais transmettre, c'est soyez attentifs au monde, soyez attentifs les uns aux autres. Essayez de repérer les copains qui vont pas proposer de l'aide. Et puis, soyez attentifs aussi aux informations qui viennent du monde entier. Savoir que la pauvreté, elle n'est pas ailleurs, elle est aussi en France. Et puis, soyez prêts à intervenir quand il y a une injustice.
Asna s'installe au studio. Comment ça va?
Ça va et toi?
Aujourd'hui, tu viens nous parler de la réponse humanitaire sur la catastrophe en Indonésie.
Le 26 décembre 2004, un tsunami a dévasté l'Asie du Sud-Est, touchant particulièrement la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde et l'Indonésie. Ce raz de marée de magnitude 9,3 sur l'échelle de Richter est une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire, puisqu'elle a fait plus de 230 000 victimes et des dégâts très importants. Beaucoup d'habitants ont perdu leur maison, les villes entières ont été détruites. L'élan de solidarité qui a suivi a été impressionnant. Il n'a plus jamais été vu depuis. l'aide humanitaire apportée par les États et les particuliers est estimée à près de 5 milliards de dollars. C'est l'Organisation des Nations Unies créée en 1945 qui coordonne cette aide, mais la Cour des comptes française a révélé en 2011 que l'aide n'était parfois pas très bien utilisée. Dans la province d'Aceh, en Indonésie, le secours populaire a permis à la création d'un local coopératif pour les pêcheurs, une unité de fabrication et une créée, mais une association japonaise a construit les mêmes infrastructures à quelques kilomètres. Le manque de concertation entre les associations amène au gaspillage d'une partie des dons puisque les infrastructures de l'association japonaise demeurent jusqu'à aujourd'hui inutiles. Malgré tout, les associations sur place ont vraiment permis aux habitants de reconstruire leur vie après cette tragédie. Dans cette même province d'Aceh, l'association Médecins Sans Frontières a accompagné les populations dans la même infrastructure de bateaux qui ont permis de reprendre leur activité. Tout ça nous apprend une leçon, c'est important de donner, mais il faut bien s'informer pour s'assurer que nos dons et nos aides aident vraiment des populations sur place.
Merci Asna. Nos chroniqueurs Cindy, Enzo, Lamia s'installent en studio. Aujourd'hui, vous venez nous parler de trois portraits de femmes engagées.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Gisèle Halimi, qui est une femme franco-tunisienne, est née le 27 juillet 1967 et morte le 28 juillet 2020. Elle est devenue avocate puis députée en 1981. Elle a défendu le droit des femmes, le droit à l'avortement et la décolonisation française de l'Algérie. Elle a aussi combattu pour criminaliser le viol.
Bonjour, je m'appelle Enzo. Je vais vous parler de Serena Williams, née le 26 septembre 1981. C'est une grande joueuse de tennis américaine. Elle a remporté 73 titres. Elle est considérée comme une icône antiraciste car elle est engagée dans le mouvement Black Lives Matter. Elle est considérée comme une icône antiraciste car elle est engagée dans le mouvement Black Lives Matter. Elle s'est aussi exprimée sur les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Elle encourage toutes les petites filles à ne jamais baisser les bras et à toujours croire en elles-mêmes.
Je me présente, je m'appelle Cindy et j'aimerais parler de Harriet Tubman. Harriet Tubman est une militante noire née en mars 1822. Aux États-Unis du Sud qui n'avaient pas aboli l'esclavage. Elle a grandi en étant esclave et dès ses 28 ans, elle s'échappe aux États-Unis du Nord qui, eux, ont aboli l'esclavage, mais elle ne s'arrête pas là. Elle revient au Sud pour s'enfuir encore avec sa famille. Plus tard, elle revient encore et aide d'autres personnes à s'enfuir des États-Unis du Sud à l'aide de l'Underground Railroad et ça aboutit à qu'elle soit reconnue comme une femme courageuse qui aide beaucoup le peuple noir. Et elle s'est battue pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. 10 ans avant sa mort, a été consacrée pour se battre pour les droits de vote pour les femmes aux États-Unis. Elle meurt en mars 1913.
Merci Cindy, Enzo et Lamia. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine
à balayer vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
On vient d'écouter la musique de Kerry James. L'émission des chroniques inconnues continue sur Radio Campus. Nos chroniqueurs Malik et Maé s'installent au studio. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un joueur de foot.
Oui, on vient te parler de Vinicius Junior. Vinicius est contre le racisme car il en a subi lors d'un match contre Valence le 21 mai 2023. Ce n'était pas la première fois qu'il subissait des attaques racistes. Il a été soutenu par des grandes personnalités, des joueurs comme Mbappé, Neymar et son club, le Real Madrid, qui a d'ailleurs porté plainte. Aussi, une petite fille de 8 ans s'est fait agresser car elle portait un maillot de Vinicius pas loin du stade. Vinicius est devenu un symbole leader contre le racisme et montre sa combativité contre le racisme à travers la presse et les réseaux sociaux.
Vinicius a créé une fondation pour l'éducation, l'Institut Junior. Et pour cela, il a reçu un prix Socrate en 2023. Moins d'un an après, Netflix tourne un documentaire sur ce qu'il a subi et ses moyens qu'il a mis en place pour lutter contre le racisme. D'ailleurs, le club Valence a refusé que Netflix tourne dans le stade de Mestalla de peur que les supporters débordent une fois encore.
Merci Malik et Maé. Nos chroniqueurs Jules et Kassim s'installent au studio. Comment ça va?
Ça va et toi?
Bien et toi?
Ça va. Aujourd'hui, vous venez nous parler de Clean Challenge.
Alors, aujourd'hui, on vient vous parler du Clean Challenge. Donc, le Clean Challenge, c'est quoi? Le Clean Challenge, c'est une action ou plutôt un défi où on va ramasser des déchets dans des quartiers de Saint-Denis pour aider des gardiens et des agents d'entretien dans leur travail. Et surtout pour que la planète soit plus durable.
Les quartiers où nous sommes allés sont Romain Rolland, Cosmonaute et Jules Curie. Ce sont des quartiers populaires où on fait 4 équipes de 4. On a été chacun dans chaque quartier. L'équipe qui avait ramassé le plus de déchets gagnait des places de karting.
De plus, en 2019, une femme du nom de Indy Heidi, qui, lors d'un après-midi, a vu que devant son association, il y avait des déchets un peu partout. Ce qui l'a beaucoup énervé et qui, pour se révolter, est parti avec des jeunes pour ramasser des déchets dans tout le quartier. C'est là qu'est le Clean Challenge.
Merci Jules et Kassim.
De rien.
De rien.
Tout de suite, c'est l'heure de l'interview et là, on est allé à la rencontre d'une militante qui a fait un burn-out et du sociologue Simon Cotin-Marx.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un burn-out ?
Oui, alors la notion de burn-out, elle a été d'abord inventée par des chercheurs américains en psychologie et en sociologie. Et le burn-out, si on traduit ça en français, c'est épuisement. Et du coup, ça a d'abord été utilisé pour décrire l'épuisement que pouvaient connaître certains salariés. Donc c'est vraiment une notion qui a été développée dans le monde du travail. On a du mal à se lever le matin. Ensuite, il y a un autre symptôme, c'est qu'on est cynique vis-à-vis de l'action des autres. C'est-à-dire qu'on pense que ce que font les autres, ça ne sert à rien, c'est inutile. Et on est aussi cynique vis-à-vis de sa propre action. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être inutile. On perd complètement le sens de ce qu'on fait. Donc en gros, c'est les symptômes d'une dépression.
Pouvez-vous nous donner un exemple de burn-out militant pour qu'on comprenne ce que c'est ?
Alors, il y a eu des chercheurs, notamment un chercheur qui s'appelle Olivier Filleul, qui a travaillé sur des mouvements sociaux, enfin des associations qui ont des engagements intenses. Lui, il a travaillé sur une association qui s'appelait ACT UP. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une association qui était très connue dans les années 90 et 2000. C'est une association de personnes qui étaient touchées par le VIH, par le sida. Et les membres d'association, ils militaient très fort, hein. En fait, ils alertaient les pouvoirs publics sur le fait qu'il y a une maladie qui se propageait parce que les politiques publiques étaient insuffisantes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'éducation à la sexualité et à la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Bref. Du coup, c'était un engagement qui était très fort parce que les gens qui militaient dans cette association, souvent, ils étaient malades du sida. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de... C'est pas très drôle ce que je vous raconte, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de traitement qui permettait aux gens de vivre avec le sida. Donc les gens mouraient, voilà, et du coup, ils s'engageaient très fort. Et il allait voir les gens de cette association, d'ACT UP, et il s'est rendu compte qu'il s'est interrogé sur le fait de pourquoi les gens arrêtent de militer dans cette association. Et il s'est rendu compte qu'entre 10 et 20% des gens faisaient un burn-out militant. C'est-à-dire que les gens, ils étaient tellement pris par leur cause, ils s'engageaient tellement fort, en fait, qu'ils s'épuisaient et que c'était une source de désengagement. Les gens militaient tous les jours, ils passaient leur temps ensemble et tout, à se battre contre des moulins avant. Donc du coup, on est là, dans cette forme d'engagement intense, entre 10 et 20% des gens ont fait un burn-out.
Khadija, vous êtes étudiante et militante associative. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait un burn-out militant ?
J'ai commencé à m'engager dans les associations à la sortie du lycée parce que j'avais bénéficié d'une association qui m'aidait au niveau de Sciences Po Paris pour la préparation des concours, donc pour entrer dans une très grande école. Et du coup, comme j'avais bénéficié d'un accompagnement, je voulais à mon tour redonner. Et ensuite, je me suis engagée dans diverses associations, mais au bout d'un moment, c'était juste trop parce que j'étais engagée dans 7 associations en même temps. Donc forcément, ça laissait plus trop de place pour tout ce qui est engagement scolaire pur, donc c'est-à-dire la fac, ni pour la vie familiale. Et j'étais à bout.
Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont souffert de burn-out militant ?
Après, je trouve que c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il faut déjà que la personne réalise qu'elle fait un burn-out. Et dans le milieu associatif, on est souvent tellement pris dans l'engagement et dans ce qu'on veut faire qu'on a du mal à ouvrir les yeux sur le fait qu'on se démène trop, qu'on se surpasse et qu'on arrive à en prendre de non-retour. Donc moi, d'un point de vue extérieur, je connais des personnes qui se sont énormément données et qui se sont trop données à mon goût. Et pour moi, c'est un burn-out. Mais pour elle ne considère pas que c'est un burn-out. Et ça en devient même maladif dans le sens où elles n'arrivent pas à se sortir de ça. Et pour elles vivent que par l'associatif, en fait. Si elles ne s'engagent pas à fond de A à Z dans un projet, pour elles, en fait, ces limites, elles n'ont pas de valeur. Donc oui, dans mon entourage, je connais des gens qui ont fait un burn-out associatif, mais après, elles n'arrivent pas forcément à conscientiser ça. Et voilà.
Oui, en fait, s'engager, déjà, il faut le rappeler quand même, c'est assez super. C'est-à-dire qu'on dit que ça permet de s'émanciper dans l'engagement. On aide les autres, on apprend plein de choses. On tisse des amitiés. Donc évidemment, s'engager, parfois, c'est difficile de s'arrêter, c'est tellement c'est super. Après, c'est vrai que quand on fait des enquêtes sur la souffrance que peut engendrer l'engagement, et notamment le burn-out que tu dis associatif, on se rend compte que les gens peuvent être dans le déni. Parce que quand on s'engage d'abord pour les autres. Et c'est quelque chose qu'on observe vraiment dans mon associatif, c'est une sorte de culture du martyr. C'est-à-dire qu'on s'engage pour les autres et commencer à penser à soi, en fait, c'est finalement c'est trahir la cause, Parce que si on prend du temps pour penser à soi, c'est du temps qu'on prend aux autres, qu'on aurait pu donner aux autres. Voilà. Et donc, du coup, tout ça, cette culture du martyr, qui est collective, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une impossibilité dans mon associatif, en tout cas, c'est très rare, d'avoir des temps où on parle de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Ce n'est pas du tout une préoccupation. La préoccupation dans mon associatif, c'est de réaliser le projet. Hein, si c'est encore une fois le changement climatique ou aider les gens à sortir de la rue. Et oui, et du coup, ce projet, en fait, ça entraîne un déni. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à soi, puis du coup, parfois, on a des alertes, mais on n'y prend pas garde.
Le collectif est-il un problème ou une solution quand on parle de burn-out militant ?
Quand j'ai intégré du coup, l'association en question par rapport à qui aide les étudiants en situation de précarité, c'était une association qui était encore petite, on va dire, qui était encore fragile. Ce qui fait qu'on n'avait pas beaucoup de membres et que forcément, on était amené à tout faire. C'est-à-dire que j'étais trésorière officiellement. Mais j'aidais aussi beaucoup la présidente pour essayer de la décharger un petit peu. Mais il y avait tellement de choses à faire que finalement, la masse qui restait sur elle a été énorme et la masse qui restait sur moi était aussi énorme. Et quand tu essaies de redonner du travail aux autres, bah, des fois, ils vont juste pas être là ou juste te ghoster et faire des morts. Ou quand tu vas dire que par exemple, tu peux pas faire telle tâche ou que t'es pas disponible de telle période à telle période, les gens, en fait, ils vont pas comprendre. Et c'est limite, ils vont te le reprocher, en fait, de pas être là. Et du coup, toi, tu t'imprègnes de ça, tu culpabilises et tu te dis bah, tu peux compter sur personne, il n'y a que moi et tu vas essayer de tout faire et de tout le temps être là et de tout le temps tout assurer alors que c'est inhumain et que c'est pas possible. Donc le collectif par rapport à ça, ça dessert, mais c'est aussi la solution en fait. À partir du moment où les tâches elles sont bien réparties et que chacun arrive à prendre un petit peu sur soi pour alléger tout le monde en fait, si on a vraiment une vision collective, bah, normalement dans l'idéal c'est censé fonctionner.
C'est un peu terrible à dire, c'est-à-dire qu'en fait, s'engager, c'est nécessaire pour changer la société, et ce qui ne va pas. Mais en même temps, si on ne le fait pas, eh ben, ce n'est pas grave. Il faut aussi savoir prendre soin de soi, parce que si on s'épuise et qu'on s'esquinte la santé, en fait, on ne pourra pas changer la société. Donc il faut savoir freiner à temps, trouver la juste mesure pour pouvoir continuer à changer le monde.
C'est la fin de notre émission des Chroniques Inconnues. Merci à Lamia, Asna, Jules, Pamela, Cindy, Kassim, Malik, Maë et Enzo. Merci à les personnes qui m'accompagnent. Merci à Noam pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.